Jour de famine et de détresse, 3. Les deux grenadiers. Ma mère avait déjà brûlé nos joujoux pour atténuer un peu le froid humide qu'il faisait chez nous. Comme elle n'était accouchée que de 10 jours, elle avait peur, disait-elle, d'attraper un frisson. Nous attendions mon père qui était coché chez un loueur. Peut-être aurait-il reçu un pourboire et pourrions-nous acheter des tourbes et du café pour nous réchauffer. De manger, mon Dieu, on se passerait. Il fallait d'abord sauter cette rigidité des membres. Mon père rentra, courbé en deux, les mains dans les poches, tremblant sous son bourgeron de coton. « Brrr, il fait encore plus froid ici que dehors. »« Tu n'as rien, Dirk, pour chercher des tourbes et du café ?»« Non, j'espérais trouver du feu. Je croyais qu'une dame devait venir te voir. »« Elle n'est pas venue, à cause du temps, sans doute. »« Si j'avais su, je me serais couché sous les chevaux. »« Quel froid, quel froid! On ne m'a pas laissé faire une seule course aujourd'hui. » J'ai dû toute la journée nettoyer des voitures à la rue par cette température. Les cochons, ils savent bien cependant que quand je ne reçois pas de pourboire, nous sommes sans pain. Ce n'est pas avec leurs 3 florins par semaine que je puis entretenir un ménage de 9 enfants. J'ai un frisson qui me monte le long des jambes, grelotta ma mère. Et dans mon état... Nom de Dieu! « Nom de Dieu, il nous manquerait qu'il t'arrive du mal. Couche-toi, et vous les enfants également. On mangera demain. Il faut absolument du feu. » Il se mit à chercher dans le taudis ce qu'on pourrait bien brûler encore, mais ne trouva que les sabots des enfants. Il les jeta de côté et recommença à chercher. Rien. Il revint aux sabots, les empila dans l'âtre et y mit le feu. Puis il se coucha. « Je vais m'allonger contre toi pour te réchauffer. » La lampe s'éteignit faute d'huile. Les petits sabots brûlaient lentement parce qu'ils étaient mouillés, mais l'atmosphère se réchauffa et une meilleure sensation nous envahit. Il n'était que 6 heures du soir. Il ne fallait pas songer à dormir. Alors, à propos du froid, mon père raconta l'histoire que son oncle Corneille Oldema qui fit la guerre de Russie sous Napoléon. Il avait assisté à la débâcle de Moscou, qu'il ne quitta qu'après avoir rempli son havresac de chandeliers, de ciboires et autres objets en or pris dans les églises. De retour en Frise, la vente de ces objets qu'un juif avait achetés lui rapporta de quoi acquérir une ferme et 4 belles vaches. L'oncle avait dit « Il ne faut pas croire que j'ai volé ces choses. Tout le monde pillait, les officiers comme les autres. C'est ainsi la guerre. Mais peu sont rentrés chez eux comme moi avec leur butin. Presque tous sont morts de froid en route, ou ont été tués par l'ennemi, ou assassinés par leurs compagnons pour être pillés à leur tour. Moi, comme Frison, je supportais bien le froid. Mais ces petits hommes bruns, qui parlaient une langue incompréhensible, mouraient comme des hannetons. Le froid les raidissait et leur coupait le caquet, car pour du caquet, ils en avaient. Ils parlaient et riaient dans les situations les plus abominables et allaient à l'assaut comme pour le plaisir, en vrais démons qu'ils étaient. La nourriture les préoccupait peu. Du pain et un oignon et ils avaient bien dîné. Mais le froid en faisait des petits garçons. Ils commençaient par traîner les pattes, puis se frottaient les yeux comme pris de vertige. Puis lentement, ils s'effondraient et s'endormaient. C'était fini. Ils ne se réveillaient plus. Un d'eux faisait route avec moi. Il lutta contre l'engourdissement. Il me parlait. Je ne comprenais naturellement rien. Un peu après, ils zézayaient. À la fin, ne pouvant plus se traîner, il s'accrocha à moi en bégayant comme un enfant. Et ainsi que les autres, il s'écroula doucement. Je pris 2 timbales en or dans son havresac. Si en chemin je n'avais pas mendié, le gros orteil ostensiblement hors de la chaussure, il est probable que jamais je ne serais revenu. mais on me prit pour un pauvre diable, sans rien. » Ma mère, qui s'était réchauffée, conta à son tour la campagne de son oncle à Nice en Espagne. L'oncle à Nice était un petit liégeois, très pieux. Il avait, avec beaucoup d'autres, dû partir pour ce pays. C'était très loin, et à mesure que l'on marchait, la terre devenait si sèche et les gens si bruns qu'il se disait que certainement on le conduisait au bout du monde. Et il avait raison, il a vu le bout du monde, confirmait ma mère. On leur tirait dessus de derrière les buissons. Les coups partaient des maisons, des toits, des arbres, mais on ne voyait personne. Alors, après une plaine jaune de sable brûlant, ils arrivèrent au bout du monde, là où le ciel vient rejoindre la terre en une eau bleue, bleue comme on n'en avait jamais vu. Les camarades s'étaient baignés dans le ciel, mais lui s'était agenouillé, par respect. Il y avait seulement trempé les mains, et de ses doigts mouillés, il avait fait le signe de la croix. Pour ce qui était de rapporter du butin, l'oncle disait que c'était un pays de meurt de faim, où des femmes, noires comme des sorcières, chantaient et dansaient beaucoup, en poussant la croupe et en faisant claquer des petits morceaux de bois entre les doigts. Quant à boire et à manger comme dans notre pays, là-bas les gens riches eux-mêmes ne savaient pas ce que c'était. Nous ne le savons pas non plus, conclut mon frère Hein. Il sonnait 10 heures chez les voisins. Les petits sabots étaient consumés, le froid redevenait intense. Excepté les tout-petits, aucun de nous ne parvenait à s'endormir, et la nuit était encore si longue. Le village rouge. Mon père, étant ivre, avait pour quelques dubetches vendu un vieux harnais hors d'usage, de connivence avec un palefrenier qui, pour se disculper, s'était empressé de le dénoncer au patron. Celui-ci avait tout simplement fait arrêter mon père. La consternation et l'affolement furent intenses chez nous. Nous voulions savoir où mon père avait été arrêté et où on l'avait conduit. Mais nous ne songeâmes pas un instant à la prison. Nous voilà donc, ma mère et moi, lâchant le ménage et tous les petits-enfants, à courir les bureaux de police d'Amsterdam. Ce fut une randonnée lamentable. Dans le dernier bureau, où nous arrivâmes exténués, les agents étaient assis autour du poêle. Ma mère, dans son émoi, employa le terme d'agent secret, ce qui la fit rabrouer par l'un d'eux. Un autre le calma en me montrant « Voyons, on les appelle ainsi. » Puis il nous informa qu'on avait conduit mon père au « village rouge ». C'est ainsi qu'à Amsterdam on désigne la prison. Nous rentrâmes chez nous en sanglotant. Quand Mina revint de son travail, ce furent de nouveaux sanglots, et toute la nuit se passa en lamentation. Le lendemain était un dimanche. Une nuit d'insomnie et de réflexion m'avait surexcité et je fis une sortie violente contre mon père. En somme, c'est encore pour boire qu'il nous a conduits à cette honte. Nous n'oserons plus sortir. Moi, je flanque dans le canal le premier qui s'avisera de me regarder de travers. Au moins si c'était pour nous nourrir qu'il avait volé. Mais non, c'est pour du genièvre. Je ne pleure plus. C'est très bien fait. « Tais-toi, Ketch. Dirk a remué toute la nuit. Il ne faut pas qu'il t'entende, car il se battra à mort si on l'insulte à ce propos. Ne le réveille pas. »« Je ne dors pas !» cria Dirk, et il se mit à pleurer. Mina trouvait qu'il fallait nous ramasser, qu'en somme, ce n'était pas nous qui avions fait la chose. Nous nous claquemurâmes toute cette matinée. L'après-midi, les uns après les autres se risquèrent dehors. Il faisait très beau. Je sortis avec précaution de l'impasse et filai le long des maisons, en affectant des allures pressées. Au bout du canal, je rencontrai ma meilleure amie, seule également. Je voulais d'abord me cacher, mais son frère aussi se trouvait au village rouge. Il était matelot, et son père lui ayant refusé de l'argent, il avait vendu son uniforme. Nous fûmes donc comme poussées l'une vers l'autre. « Rika, dis-je, allons nous promener au Skansen. » Les Skansen étaient des boulevards extérieurs qui menaient à la prison. Nous aboutîmes à celle-ci comme par hasard. Nous marchâmes autour du village rouge en inspectant toutes les fenêtres, nous arrêtant à chaque instant et parlant haut dans l'espoir d'être entendus par les nôtres. Mais non, rien ne bougeait. Puis nos regards se rencontrèrent et nous tombâmes dans les bras l'une de l'autre en pleurant. Nous appelâmes éperdument nos prisonniers et nos cris « Père ! Père ! Fritz ! Fritz !» s'entremêlèrent dans nos sanglots. Nous trouvâmes des excuses en disant que mon père était ivre et ne savait ce qu'il faisait, et que son frère était si jeune. Après quelque temps, on relâcha mon père. Son larcin d'ivrogne ayant été jugé trop insignifiant pour justifier une poursuite. Mais le mal était fait, et il ne trouva plus de travail chez aucun loueur de la ville. Marchande de rue. Les jours suivant l'incarcération de mon père, la misère devint atroce chez nous. Les 3 florins qu'il gagnait par semaine servaient à payer le loyer et les quelques dettes criardes. Pour le reste, nous vivions au jour le jour des pourboires qu'il recevait. Et maintenant, tout était supprimé du coup. Nous délibérâmes avec une vieille voisine sur le parti à prendre. Elle et presque tous les habitants de notre impasse étaient des colporteurs allemands qui vendaient des poteries en terre. Elle mit 3 casseroles sous mon tablier d'enfant, m'expliqua combien elles coûtaient, ce qu'elle devait rapporter et le boniment que j'avais à faire pour les vendre. Chez moi, toute émotion se traduit par des tremblements. Je partis donc en tremblotant. Je pris le quartier juif où, de porte en porte, j'offris timidement mes casseroles. On avait refusé partout. Et voilà qu'une juive m'acheta les 3 pots à la fois. Ah, par exemple, du coup, de froid que j'avais, je pris la fièvre. Je cours à la maison chercher 3 autres casseroles. Je les vends. Quelle joie ! Le soir, j'avais un gain inespéré d'un 1/2 florin. J'écrivis tout de suite à mon père de ne pas s'inquiéter de nous. Que moi, je gagnais largement la vie pour tous. Que je n'avais plus de semelles à mes souliers, mais que je mettrais des sabots. Qu'il devait seulement songer à s'innocenter de son larcin. Me voilà marchande de rue. En quelques jours, et avec un peu de crédit, j'eus une charrette pleine de poteries, qu'en criant je débitais de porte en porte. « Kop ! Poten an panen ! Kop ! » Comme les Pâques juives approchaient, j'allais dans la Jodenbreedstraat me poster parmi les autres colporteurs, chez qui les juifs venaient renouveler leur vaisselle de Pâques. Comme tous les marchands, je devenais fourbe. Quand je pouvais coller une casserole fêlée à un client, je n'y manquais pas. Les chrétiens se fâchaient, et j'avais à m'excuser, mais les juifs, point. Un jour, une juive me demande un pot, je lui en montre un. Au moment de l'acheter, elle le retourne et aperçoit une fêlure. Elle ne me dit rien et en prend un autre. Survient une deuxième juive à qui je veux passer le même pot. Elle l'avertit simplement. « Ne prenez pas celui-là, il est fêlé. » Ni l'une ni l'autre ne se fâcha de ce qu'à 2 reprises j'avais essayé de tromper. Mais où tous s'emportèrent et s'ameutèrent presque contre moi, et où je n'eus que juste le temps de filer avec ma charrette, c'est quand ils trouvèrent une tartine beurrée dans une des casseroles qu'ils devaient acheter. Cocher pour les Pâques. Après les fêtes, je me répandis par la ville avec mes poteries. J'irai sur les grands canaux d'Amsterdam, qui m'attiraient toujours par leurs hôtels sévères aux majestueux perrons, par leurs bordures de vieux arbres aux frondaisons opulentes, par l'eau d'un verre noirâtre où parfois une barque à voile glissait silencieuse, par le grand calme qui s'en dégageait et qui me reposait du bruit et de la pauvreté de chez nous, où les enfants pleuraient toujours de malaise et de faim. Là, il faisait tranquille et exquis. Je pouvais m'isoler et me raconter des histoires ou lire les mystères de Paris. J'étais Fleur de Marie, et quand Rodolphe me reconnaissait comme sa fille, je ne faisais que changer de robe pour être une princesse, en avoir les épaules, les mains blanches et le langage. J'aurais grasseillé, les riches grasseillent. Ce n'est pas moi qui aurais embêté mon prince de père pour rentrer à l'impasse, comme Fleur de Marie pour retourner à la cité. Non, je l'aurais supplié qu'il en retirât les miens. Être princesse sans classe et qu'ai-je m'en enlevait tout le goût. Mère et Mina y retourneraient certainement les jours où elles mettraient des robes neuves. Dieu, que la femme séguère va rager. Elle se cachera en les voyant venir. Puis la propriétaire, qui n'a aucune pitié de nous maintenant que père est en prison, sera bien déconfite aussi quand on partira en lui payant l'arriéré et en laissant tout dans la chambre. On lui dira « Nous n'emportons pas ces guenilles, donnez-les aux pauvres, nous sommes des princes. » Mes rêves ne me faisaient cependant pas oublier la réalité. Je ne vendais rien sur les grands canaux. Les gens riches achètent dans les magasins, et les larbins me claquaient la porte au nez en m'insultant. Alors je retournais dans les rues populaires, où la vente marchait. « Cop ! Porten empanen ! Cop ! » À midi, j'allais pour 5 centimes dîner au local. Tous les marchands de rue, les tourneurs d'orgues, les aiguiseurs de ciseaux, enfin tous les gagne-petits de la rue, tous les éclopés, les épileptiques et les aveugles venaient y manger. Les hommes prenaient un plat de fèves avec un morceau de graisse au milieu en guise de viande. Les femmes mangeaient beaucoup de l'orge au sirop. Mais les enfants, comme moi, choisissaient tous du riz saupoudré de cassonade. C'était servi très chaud et très propre. On avait aussi du pain et du café pour le même prix. Tout, jusqu'au bain, coûtait 5 centimes. On laissait dehors les orgues, les charrettes et les balles remplies de marchandises, et jamais rien n'était soustrait. Je rencontrai là mes voisins, les autres marchands de poterie. Un d'eux, Willem, était un garçon de mon âge. Quand nous colportions ensemble, il m'aidait à monter, avec ma charrette, les nombreux ponts d'Amsterdam, ce qui était très dur pour moi. Il me dit un jour qu'il me préférait à tous, et me demanda si moi aussi je l'aimais un peu. J'avais la tête baissée et je tremblais. Je répondis que oui. Alors il m'aidait régulièrement à passer les ponts, et quand la vente marchait, il achetait quelques friandises dont il me donnait la plus grosse part. Un matin, Willem se trouvait parmi plusieurs colporteurs de l'impasse, arrêtés au canal des Lys. C'étaient des grands, presque des hommes. J'arrivais sur la rive opposée et devais, pour les rejoindre, monter un pont très raide. Willem accourait à mon secours, mais les autres, se moquant de mes efforts, lui crièrent de ne pas m'aider. Il était déjà au milieu du pont quand, honteux de leur quolibé, il rebroussa chemin. La tâche était excessive pour mes forces. Comme j'avais pris le tournant trop court, si je reculais, je tombais dans le canal avec ma charrette. Je me raidis, je traversais le pont. Mais, au lieu d'aller vers les camarades, je continuai droit sur l'autre canal et ne voulus plus jamais ni de l'aide ni des friandises de Willem. Je l'avais trouvé lâche et sans explication. C'était fini. Mais il était si enfant que son chagrin ne parut guère. Il n'était pas assez fin non plus pour comprendre. C'était un bon gros chien, avec un beau rire exubérant. Comme les Pâques juives finies, je ne rapportais plus qu'un gain dérisoire pour les 10 bouches qu'il fallait nourrir. Nous finîmes par manger le fond avec le gain, et après un petit temps, tout était consommé. Une leçon de vie pratique. Pendant sa dernière grossesse, ma mère avait souffert de telles privations et les transes de deux expulsions en un seul hiver l'avaient si fort déprimée que pour la première fois, elle mit au monde un enfant débile. C'était une petite fille blonde, à tête d'ange, toujours un peu penchée de côté. Nous la perdîmes au bout de 2 ans. Ma mère en eut une douleur que rien n'apaisait. Nous l'entendions murmurer à voix basse « Ma petite fille, ma petite fille, elle est morte de misère. » Elle nous rappelait constamment les gestes de son bébé qui ne savait pas encore parler. « Te rappelles-tu, Kedge, quand elle était sur mes genoux à table, qu'en voyant le pain, elle me faisait ouvrir le tiroir ? Et comme elle savait bien choisir, parmi les couteaux, le couteau à pain qu'elle me tendait alors, triomphante. Et quand, pour lui faire une niche, je lui présentais le sein au lieu d'une tartine, te souviens-tu de sa grimace ? Parce qu'il lui rappelait le goût de la moutarde que j'y avais mise pour la sevrer. Et ma mère riait en pleurant. Puis elle allait prendre dans une petite boîte la mèche de cheveux blonds auquel adhéraient encore des lentes, et se plaçant sous la lucarne de notre mansarde pour pouvoir en distinguer la couleur dorée, elle l'embrassait en sanglotant. Enfin, ma mère était devenue malade, et moins que jamais s'occupait de ses enfants vivants. Le docteur des pauvres vint la voir. Il nous regarda tous en disant « Quels beaux échantillons d'enfants ! Mais vous êtes tous malades, la fièvre vous ronge. Quant à vous, petite femme, il est temps de vous soigner sérieusement. Je vais prescrire de la quinine. Je vous permets d'en donner un peu à vos enfants. Puis vous, que faire ? Il faudrait des œufs, de la viande, du vin. » Au mot « vin », nous avions tous levé la tête stupéfaits. « Du vin à des pauvres ?» Ce monsieur nous semblait dire des bêtises. Tant chez nous, l'idée de vin se confondait avec l'idée de gens riches et de ripailles. Il se rendit compte de notre ébahissement, nous embrassa d'un regard circulaire, haussa les épaules et sortit. Nous considérions notre mère presque avec respect d'avoir une maladie qu'une boisson aussi distinguée que le vin devait guérir. La viande, les œufs, nous avaient moins frappés. Nous voyions autour de nous des gens qui en prenaient le dimanche. Mais du vin, jamais. Cela nous effarait. Mon premier mouvement fut d'aller, la tête en feu, raconter la chose chez les voisins. Quand mes parents voulaient causer, ils devaient attendre qu'ils fussent couchés et les enfants endormis. Comme j'avais des insomnies, j'entendais souvent leurs réflexions et leurs propos. J'apprenais ainsi leurs projets et je partageais leurs inquiétudes. Ce soir-là, quand la lumière fut éteinte et que mon père nous crut endormis, il appela doucement. « Mina !»« Oui, père, » répondit-elle. « Est-ce que Kedge dort ? Cette gamine passe ses nuits à s'agiter. » Elle me poussa du coude et comme je ne bougeais pas, elle fit « Oui !»« Écoute !» On t'envoie souvent dans ton service chercher du vin à la cave. Oui, la vieille ne sait pas descendre et le fils ne veut pas, alors on m'envoie. Eh bien, tu devrais prendre quelques bouteilles de vin pour mère. Non, Dirk, ne lui dis pas ça, protesta ma mère. Laisse donc. Je n'ose pas, père. Le fils descend de temps en temps pour en prendre du très bon, et il s'apercevrait qu'il manque des bouteilles. Il y en a juste 2 sur un tas de rangées de 6. Si j'en ôte, il pourrait le voir. Aussi ne faut-il pas enlever ces 2 bouteilles, mais toute une rangée, et remettre les 2 sur le tas, de la sorte cela ne se remarquera pas. Mais comment faire sortir ces 6 bouteilles ? Tu les placeras sous la provision de charbon, et chaque matin tu en cacheras 2 dans le bac aux ordures, au moment de le mettre à la porte. Je me charge du reste. » Oui, ainsi cela pourrait se faire, fit Mina après un moment de réflexion. Tu devrais bien aussi m'apporter un des pantalons du vieux monsieur, puisqu'il est paralysé et ne s'en sert plus. Un pantalon ? Et de quelle façon l'emporter ? La vieille me remet tous les soirs mes deux tartines au moment de mon départ. En faire un paquet serait maladroit, c'est évident. Il faut le mettre et replier les jambes jusqu'aux genoux. En les attachant avec une épingle, cela tiendra, et personne ne verra rien. Ah non ! Le vieux a la peau qui pèle, et il se gratte continuellement jusqu'au sang. Je ne veux pas mettre sur moi un objet qui a touché sa peau. Je la sentais, à côté de moi, frissonner de dégoût. Elle me donna des coups de pied et des coups de coude de révolte qui m'auraient éveillé 10 fois si je n'avais été tout oreille. Mon père ne se fâcha pas, mais se fit persuasif. « Voyons, nous sommes sains. Je n'ai jamais rien attrapé. C'est une blague, la contagion. Je n'ai plus de fond dans mon pantalon. Un de ces jours, je ne pourrai plus sortir. » Le lendemain, mon père rentra avec 2 bouteilles de vin. On en déboucha tout de suite une. C'était du vin couleur jus de chou rouge. Il en versa une demi-tasse à ma mère, qui le but en contractant la bouche, comme si elle avait mordu dans une baie sauvage. Puis, avec une cuillère, il nous en donna à goûter. Il but alors à même la bouteille, la vida aux 3/4, et claquant de la langue, il déclara « Cela n'a pas de goût. Je préfère un bitterge. » Ma mère devint écarlate et eut des nausées. Il fallut la soigner toute la journée. Le vin ne put jamais s'acclimater chez nous. Mina, en rentrant le soir, fit un signe à mon père. Il la suivit dans le petit couloir obscur qui précédait notre chambre. Quand ils revinrent, elle courut se frotter les jambes avec un torchon en répétant « Ouh, sa peau pèle, sa peau pèle !» Le lendemain, mon père mit un bon gros pantalon, dont ma mère, en clignotant fiévreusement des yeux et en tressautant à chaque bruit, avait changé les boutons. Je quitte ma place. Dès mon entrée dans l'impasse, j'entendis les jolies voix des miens qui chantaient des psaumes en chœur. Un bien-être m'envahissait. Je précipitai le pas et entrai chez nous en coup de vent. Les voix se turent dans un couac. « Comment, c'est toi ?»«
Oui. » »«
Tu as quitté ta place ?»«
Oui. »«
Bien, je... » zézéya un de mes petits frères en étendant ses menottes vers moi. Je le pris sur mes bras.
« Klatsch, Klatsch, je suis revenu. »«
Mais je te croyais si bien nourri dans ton service, » dit mon père. « Quand on est bien nourri, on doit supporter beaucoup. Nous chantions pour oublier la faim. Et tu vois, la lampe va s'éteindre, faute d'huile. » « Je savais tout cela, et je suis revenu quand même. Les premiers jours, étant affamé, je torchais tous les plats avec ma langue. J'étais insatiable. Mais quoi, je ne suis pas une mendiante. Je ne veux donc pas être nourrie de leurs restes. Je les ai vus remettre des pommes de terre de leurs assiettes sur le plat. C'était pour nous. Et ils nous donnaient des tartines dans lesquelles ils avaient mordu. Eh bien, quand je travaille, je prétends ne pas être traité ainsi. Je comprendrai qu'ils ne donnent pas de leur pain d'épices ou de leur boudin de foie et autres délicatesses qu'ils mangent devant vous sans jamais rien vous en passer. Soit, mais je ne veux pas que mes tartines aient traîné sur leurs assiettes. Tu oubliais la faim que tu as eue ici.
Non, père, seulement quand on travaille. « Ce n'est pas comme si on recevait une charité. »«
Tu es ingrate, petite. Tu mangeais le pain de tes maîtres et tu n'étais pas contente. »«
Ah non, je mangeais le pain de mon travail et non le leur. C'est comme la femme de journée qui geignait de devoir travailler pour les autres. Je lui ai dit « Tu travailles pour les autres ?»«
Moi pas. Je travaille pour gagner ma vie. Crois-tu que je mettrais un seau d'ici là pour cette usurière qui est notre patronne si elle ne me payait pas ?
Plus souvent.
Donc je travaille pour gagner ma vie. Mieux je travaille, mieux je dois être traitée, et je travaille de mon mieux. J'avais prévenu la patronne, et comme ce soir encore, elle nous a donné des pommes de terre visiblement tripotées, je suis partie sans vouloir manger.
Eh bien, tu pourras te coucher sans souper et te lever sans déjeuner. C'est incroyable, quand on a à manger, de demander davantage. Mon Dieu, père, je n'irai pourtant pas vider les vases de cette ignoble vieille et encore être son obligée. Je travaille, elle me paye, nous sommes quittes, mais je ne veux pas être payée avec des reliefs. Voilà, c'est la nouvelle souche qui parle ainsi. Nous ne pensions pas à tout cela. Je haussai les épaules et j'allai m'asseoir avec le petit. Le chat me sauta sur la nuque et s'y installa. Le bébé s'endormit. Au bout d'une demi-heure, j'avais le sang à la tête de respirer l'air empesté de notre taudis. J'étais néanmoins frémissante de bonheur de me trouver parmi les miens. Je grandissais et commençais à échapper complètement à mes parents. J'étais sans aucune instruction, mais depuis l'âge de 7 ans, auquel j'avais appris à lire, je dévorais avidement n'importe quel écrit qui me tombait sous la main. En 1870, j'allais, en me rendant à l'école, lire, depuis le premier mot jusqu'au dernier, les dépêches de la guerre affichées aux devantures des magasins. Et ces massacres me hantaient, au point que je ne parvenais plus à m'appliquer aux leçons. J'avais suivi toute l'affaire Tropman dans les journaux, collés au recto et au verso sur les murs à affiches d'Amsterdam. J'ai lu ainsi des feuilletons entiers. Mais mon impressionnabilité avait surtout été mûrie par la misère, qui nous obligeait à ruser pour avoir du crédit, qui nous faisait passer par toutes les transes du loyer qu'on ne pouvait payer, et la honte des créanciers qui venaient nous insulter et ameuter les voisins. Des infamies s'étaient incrustées dans ma mémoire, comme celle de l'usurière qui avait gardé l'argent épargné sur la faim de nos enfants et ne nous avait pas rendu les vêtements que nous étions venus dégager. Tout cela m'avait composé une nature étrange, où une grande candeur naturelle s'alliait à une sensibilité et à une compréhension au-dessus de mon âge. J'étais prête à toutes les besognes, mais intraitable devant ce qui me semblait une injustice. J'étais souple et en même temps peu maniable, comme le prouvait ma fugue de ce soir. La lampe continuait à baisser, nous nous couchâmes, mes parents dans l'unique alcôve, les 9 enfants sur des paillasses par terre. Quand je m'y étendis à mon tour, j'eus ce léger vertige qui me prenait chaque fois que je me couchais à terre. J'ajustais les petites fesses de clatch dans mon giron et m'endormis dans le ravissement de sentir contre moi ce petit être adoré. Ma fille, monsieur Cabanel. Mina s'était prostituée par paresse et veulerie. Elle était chue dans une maison discrète, à l'air respectable et effacé, où, le soir, se glissaient des messieurs du meilleur monde. Les femmes n'y allaient qu'à la nuit. Elles appelaient la tenancière « mère » et devaient, après avoir reçu un client, remettre leurs chapeaux et leurs gants, comme si elles ne venaient que d'arriver. Quand ma sœur eut fait le tour des habituées, qui ne représentaient jamais la même femme, elle ne gagnait plus rien. Tous ses beaux vêtements étaient au mont-de-piété, et ce fut chez nous la famine, comme avant, car mon père, usé par les privations et par l'alcool, ne travaillait plus. Ma sœur m'avait, une fois, conduite dans cet endroit. J'avais 15 ans. J'étais blonde et fraîche, un vrai poulet de grain. Je n'avais guère de chair, mais une fine peau gainait une charpente des plus flexibles, une petite croupe haute et étroite, 2 tétons menus comme de gros bourgeons, où la sève montait, lancinante, et que je protégeais d'instinct de mes 2 mains. La tenancière avait insinué que des petites formes comme ça étaient fort demandées. Oh, rien que pour montrer leurs jambes à de vieux messieurs tout à fait respectables. Rien à craindre. J'avais été très indignée quand j'eus compris ce que ma sœur était devenue et où elle m'avait conduite, et je l'avais traitée de putain. J'étais, à cette époque, en service chez des diamantaires juifs, qui, pendant une longue crise de l'industrie du diamant, s'était fait marchand de vieux habits. Le ménage se composait d'une dizaine de personnes. Tout cela grouillait dans une grande chambre et un réduit. On faisait, le soir, les lits par terre. L'argent qu'il gagnait passait à la nourriture, de préférence des douceurs, et à des toilettes voyantes. J'étais chez eux comme un enfant de la maison et dormais avec les deux fillettes de mes patrons. Tous me témoignaient beaucoup de sympathie, parce que j'étais douce et vaillante. Une grande bonhomie régnait dans nos rapports. Nos poux même sympathisaient. Les Juifs avaient des poux noirs, moi des blonds, et au bout de quelques jours, nous avions fait des trocs. Nous eûmes tous des poux noirs, blonds et des métisses châtains. Mais aucun de nous ne s'offensait de ce libre-échange. Nous les tuions avec le pouce sur le coin de la table et éprouvions un plaisir féroce à les entendre craquer sous l'ongle. Un soir de sabbat, j'allais me déshabiller pour me mettre au travail quand ma mère vint. Elle demanda à la juive si je ne pouvais sortir pendant quelques heures, ajoutant que mon oncle d'Allemagne était arrivé et voulait me voir avant de partir. Je devinais le mensonge. Au bas de l'escalier attendait Mina, habillée en traînée, les cheveux coupés courts et frisés au fer, comme ceux d'un acrobate, le visage camard grossièrement fardé de blanc et de rouge. Je me fâchais, disant que je ne voulais pas qu'on vînt me faire honte chez mes patrons. Elle me répondit que je devais être plutôt flattée qu'une sœur si bien mise venait me voir. « Oui, mais ton air de grue et la gueule de clown que tu t'es faite en disent long sur ta belle toilette. Voyons, qu'y a-t-il? Quelle est cette blague d'un oncle qui désire me voir ?»« Écoute, fit ma mère, Mina ne gagne plus rien. Tous ses vêtements sont au clou. Nous mourrons de faim. Il y a un monsieur qui veut voir tes jambes. » « Ah non, je ne veux pas. »« Je te l'avais bien dit, il n'y a rien à faire avec cette créature enfantine. Allons, les petits sont malades de faim. » On me mit une épaisse voilette pour cacher ma figure d'enfant et ma sœur m'emmena. Je portais une robe de coton clair, toute sale de l'avoir traînée sur les perrons en jouant avec les enfants durant ce long jour de sabbat, et un vieux chapeau de dame, mise bas de ma patronne. Ce chapeau chiffonna la tenancière. Elle craignait que son client ne pensât que j'avais déjà cascadé. Elle ne cessait de répéter « Mais quel beau chapeau! Tu l'as emprunté pour venir ici ?» Elle insistait tellement que le client, agacé, finit par dire « Mais non, cette guenille est bien à elle !» C'était un homme de 50 à 60 ans, maigre, de grande allure. Il me mania fiévreusement en s'exclamant « Jolie, jolie !» Mon petit corps jamais lavé, mes cheveux bouclés remplis de poux, semblaient lui faire beaucoup plus d'impression que si j'eusse été imprégné de parfums et enveloppé de dentelles. Mais la plus grande attraction pour lui fut certes la douleur que je ressentais. Avant de partir, il me donna des florins en répétant « Jolie, jolie !» Ma sœur m'attendait. Quand je lui dis ce qui s'était passé, elle me répondit « Je le savais. Maintenant, tu ne pourras plus me traiter de putain. » Nous rencontrâmes ma mère sur le pont de notre canal. Elle avait des plaques rouges sur les pommettes et clignotait anxieusement des yeux. Je lui donnai les florins. Elle me jeta un regard éploré que j'évitais. Rentré chez les Juifs, je me mis à relaver la vaisselle du sabbat. Troisième exode. Après plusieurs années effroyablement remplies de jours de famine, il nous fallut également quitter Amsterdam. Cette fois, ce fut pour la Belgique. La ville paya notre émigration. Nous fûmes de nouveau embarqués le soir sur un bateau. L'état morbide de mes 15 ans avait donné à mon esprit une acuité qui me faisait comprendre toute l'étendue de notre misère, et j'aimais Amsterdam. Quand nous passâmes sous le pont de la haute écluse de l'Amstel et que la ville resta derrière nous, je devins pâle et grelottais, comme prise de fièvre. Il y avait sur ce bateau un monde interlope. Un homme et une femme se disputaient et furent débarqués en pleine nuit sur le quai d'une écluse, d'où ils invectivèrent le capitaine. Dans la cabine commune, plusieurs passagers jouaient aux cartes et aux dés. Tous avaient trop bu. Le tabac, l'alcool et une odeur fade, indéfinissable, empuantissaient l'atmosphère. Un ivrogne avait accaparé tout un banc, s'y était étalé sur le dos et divaguait à haute voix en se donnant de grands coups de poing sur la tête. Son haleine d'alcoolique semait la nausée. Nos enfants dormaient sur des coins de banc. Mina se faisait peloter par un des chauffeurs. Ma mère et moi étions accroupis dans un coin, à terre, serrés l'une contre l'autre, très apeurés et n'osant dormir. Nous arrivâmes le matin à Rotterdam, où des agents de police nous attendaient. Ils interpellèrent ma mère en demandant si c'était elle, cette femme. Je fus si humiliée qu'en traversant la passerelle, je dis tout haut à l'un d'eux « Mais on va croire que nous sommes des malfaiteurs ?»« Non, mon enfant, répondit-il, nous ne les traitons pas ainsi. » Ah, cela me soulageait. Ils nous conduisirent très aimablement jusqu'à un bateau en partance pour Anvers. Ma mère avait emporté une provision de petits pains rassis qu'on vendait au rabais. Hein vint me dire, tout joyeux, qu'il aimait beaucoup voyager, qu'au moins on mangeait bien, qu'il avait eu 4 petits pains. Moi, je n'avais rien pris. J'avais la gorge serrée et l'estomac fermé. Et chez nous, on ne demandait jamais si on voulait manger. On ne donnait qu'à celui qui réclamait. Dans les écluses de Answerth, des Zélandaises descendirent sur le bateau pour vendre des cerises. J'en aurais bien mangé, des cerises, si seulement j'avais eu quelque sens pour en acheter. Je n'avais jamais vu le costume zélandais et fus tout à fait séduite par le beau bonnet de dentelle à larges ailes et les ornements d'or attachés de chaque côté des tempes. Le riche collier en corail et le corsage à fleurs brodées m'attiraient spécialement. J'aurais voulu être paysanne zélandaise pour pouvoir m'habiller ainsi. Même l'amoncellement des jupes, qui les faisait rondes comme des cloches, me plut. En remontant l'échelle, une des Zélandaises eut sa jupe soulevée par le vent, et l'on vit qu'elle ne portait pas de pantalon. Ah, la joie que cela provoqua! Je fus surtout écœurée des rires des femmes, parmi lesquelles ma sœur Mina, qui s'était fait offrir des cerises. Je lui jetai entre les dents « Salope !» À Anvers, mon père nous attendait sur le quai. Cette ville, très morte à cette époque, me déplut. Le flamand qu'on parlait autour de moi me semblait ce que j'avais de ma vie entendu de plus grossier. Une dame bien mise disait à un enfant « Marche, marche, ou je te donne sur ton cul !» Je vis de grandes fillettes s'accroupir en se découvrant plus haut qu'il n'était nécessaire, sans la moindre retenue. Ah, si c'était ça, le Belge! Je demandai où se trouvaient les canaux. Je ne me figurais pas de ville sans canaux. « Il n'y en a, dit mon père, que dans le quartier des prostituées, et encore. » « Pas de canaux ! » Je pris tout en aversion dans cette ville. Nous mîmes nos frusques sur une charrette à bras que Hein et moi poussâmes jusqu'au fond d'un faubourg. Cette fois, mon père ne s'était même pas avisé de chercher une demeure quelconque. De braves cabaretiers chez qui il logeait nous permirent de coucher dans leur grenier. « Il n'y a que le cordonnier du premier qui y travaille, » nous dit la femme. Nous mîmes de la paille par terre et nous voilà couchés, ayant tous la migraine, à proximité de ce cordonnier qui nous reluquait, ma sœur et moi, et qui, dès 5 heures du matin, tapait dur sur le cuir. Fabrique de chapeaux. J'avais 17 ans. Nous habitions à Bruxelles, un quartier ouvrier. Nous ne savions pas un mot de français. et même le marolien nous était inintelligible. Cela nous empêchait tous, mon père le premier, de trouver un travail convenable. Une jeune femme du voisinage m'emmena à la fabrique de chapeaux où elle était employée. Je fus embauchée. On me conduisit dans un grand atelier rempli de vapeur, où des femmes, presque toutes jeunes, besognaient, les manches retroussées, devant de longs bacs remplis d'eau chaude, additionnés de vitriol, me dit-on. Elles s'arrêtèrent un instant pour me dévisager. Puis les têtes se penchèrent, les bras s'abattirent, et le travail reprit, fiévreux. Je trouvai très jolie, en entrant dans la salle, la buée argentée, où ses jeunes bras nus et ses chevelures de toutes nuances se démenaient dans une grande activité. Mais quand il me fallut respirer les émanations qui s'en dégageaient, cette impression presque inconsciente de beauté se dissipa bientôt. On me conduisit vers une jeune femme qui devait me mettre au courant. Elle me reçut assez mal, car comme on travaillait à la pièce, s'occuper de moi était pour elle une perte de temps. Le travail consistait à tremper dans l'eau vitriolée de longs bonnets en laine et à les enrouler en les frottant sur une tablette attenante au bac. On répétait l'opération jusqu'à ce que les bonnets fussent assez rétrécis pour en façonner des chapeaux de feutre. On suait abominablement à cette besogne, et par cet hiver glacé, toutes presque toussaient. L'eau était très chaude, l'acide corrosif. Mes ongles se ramollirent en quelques heures et se cassèrent en laissant dépasser un gros bourrelet de chair au bout de chaque doigt. À l'heure du déjeuner, mes mains étaient si gonflées et si douloureuses que je ne pus presque tenir ma tartine. Pendant ce repas, mon interrogatoire commença. Comment je m'appelais ? Ketch Oldema. Quoi ? Ce n'est pas un nom ? D'où je venais ? De la Hollande. Ah, et c'est là qu'on parle cette langue que vous babillez ? Eh bien, non, je ne voudrais pas parler ainsi. Et vos cheveux ? Vous les frisez la nuit pour les avoir ainsi ondulés le matin ? Non, ils sont ondulés, disais-je, en caressant mes bandeaux. Ah oui, on connaît ça. Elle ne m'aimait pas. Pourquoi encore une fois ? Partout, je produisais la même impression. Je sentais que pour un rien, comme à l'école, elle m'aurait mise en charpie. Enfin, une fille au nez retroussé me demanda si je savais chanter. Oui. Alors, chantez-nous quelque chose. J'entonnais l'air national hollandais. Elles me regardèrent ébahies. Ah bien, c'est comme à l'église, vous allez à la procession ? J'étais très humiliée de cette demande. À la procession, moi ? Ah non, je ne crois pas à ces bêtises. Et à la messe ? Non plus. Frère, vous en êtes ! Une pratique ! Nous y allons, nous, à la messe ! J'entendis chuchoter « C'est une juive !» Celle qui m'avait fait chanter n'en revenait pas, tant elle était écœurée de mon chant. « Ça, chanter, zut, écoutez-moi, je sais chanter !» Elle se campa, les deux poings sur les hanches, la tête relevée de façon que la lumière joue jusqu'au fond de ses narines dilatées, et la bouche démesurément ouverte, elle gueula d'une voix de poitrine poussée en pointe. « Ha, 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 mein lief is not ein russe !» etc. Des « ça est bien !» accueillir son chant et ses gestes. « Voilà comment on chante chez nous. Tout le monde comprend cela. Tandis que ce que vous avez miaulé... » Une moue acheva sa pensée. Inutile, elle me détestait d'instinct. On m'avait envoyé, dans un autre atelier, chercher des sacs de laine. En traversant la cour, je croisai un vieux monsieur qui me dévisagea, puis me suivit. Dans l'escalier, il me parla en français, mais je ne comprenais pas. Il me fit alors signe de le suivre au grenier. Cette fois, je compris et fis non de la tête. Quand je redescendis, il était encore là. Il continua sa mimique, moi la mienne, et je rentrai à l'atelier. « Ah, le patron !» chuchotèrent-elles, et toutes de l'observer d'un regard oblique. Quand il eut quitté, une vieille déclara « Cela ne pouvait manquer, c'est tout à fait son genre. » L'après-midi, on avait fini par me laisser tranquille. Je m'appliquais le mieux que je pouvais, de mes mains endolories qui ne s'habituaient pas à ce liquide corrosif, quand un homme entra. « On parle au bureau d'une nouvelle, qui doit être un oiseau rare. Où est-elle ?» On me montra. « Ça ? Ah non !» Il tourna sur lui-même, en se tapant les cuisses et s'esclaffant. « Ah là là, ils en ont du goût, ces messieurs. Mais c'est une sauterelle. Regardez donc ses bras. » Le fait est que mes bras de fillette maigre et mes longues mains m'avaient plus d'une fois attiré des colibés. Aussi les montrai-je le moins possible. Mais ici, il avait bien fallu retrousser mes manches. Je pleurais presque de honte. Surtout que la joie de toutes ces femmes, vieilles et jeunes, était réelle. Cela dura ainsi 4 jours. Le 4e, au goûter, je ne pus manger mes tartines. Elles les avaient trempées dans cette immonde eau vitriolée. « Je m'en vais, leur dis-je. J'en ai assez. Un être humain ne peut vivre parmi vous. » Elles demeurèrent quelque peu baba. Une des plus âgées déclara « Quand j'ai vu entrer cette petite, j'ai senti qu'elle ne resterait pas. Elle n'a rien à faire ici. » « Regardez-la donc avec son médaillon et ce ruban dans les cheveux. » Je me rendis au bureau auprès du contremaître. Un petit homme rêche, et je lui demandai mon compte. J'ajoutai qu'il m'était impossible de rester au milieu de cette racaille. « Eh bien, allez-vous-en, mais je ne peux vous payer que le samedi soir à 7 heures. » C'était dit sur un ton hargneux qui m'étonna. Le samedi, je revins avec ma petite sœur Natch recevoir le salaire de ces 4 jours. Dans la cour de la fabrique, toutes les femmes étaient assemblées pour la paix. En m'apercevant, elles commencèrent à ricaner, à me pousser, et une me tirait ma tresse, quand accourut le petit contremaître. Il empoigna la fille par les 2 épaules et, du genou, lui appliqua une volée de coups au bas des reins. Puis, me poussant dans le bureau, il me remit 9 francs et me conduisit à la porte où il cria « La première qui bouge, je la fous dehors !» Je détalai avec ma sœurette. À 200 mètres de la fabrique était une maison de campagne. De dessous les arbres qui la bordaient, surgit le patron. Je lui jetai en hollandais un « vieux salaud !» sonore, et nous nous sauvâmes dans l'obscurité, en riant aux éclats. Il pèle les oignons. Toute offre de gagner quelques sous était acceptée par nous avec empressement. Une vieille dame, fabricant de conserves alimentaires, proposa à ma mère de donner du travail à Natch, qui avait 12 ans, et à Kess, qui en avait 8. Ils devraient toute la journée peler de petits oignons. Le premier soir qu'ils revinrent de cette besogne, nous fûmes épouvantés. Leurs figures étaient bouffies et barbouillées de se les être frottées de leurs petites mains sales. Leurs yeux gonflés comme si on les avait rossés et s'ils avaient pleuré durant des heures et des heures. Nous demandâmes comment cela s'était passé et ils nous racontèrent leur journée. En arrivant le matin, à 7 heures chez la vieille dame, elle les avait installés sur de petits bancs devant un grand panier d'oignons et leur avait montré comment ils devaient délicatement enlever la pelure sans les entailler, car chaque entaille devenait bleue dans le vinaigre et les oignons ainsi détériorés ne pouvaient plus servir à des conserves de premier choix. Ils s'étaient mis à l'œuvre pendant que la dame, assise à côté d'eux, nettoyait des cornichons. Au bout de quelques instants, leurs yeux commencèrent à couler, et ils les essuyèrent avec leurs mains mouillées de sève d'oignon. Alors Nadj, n'y tenant plus, s'était mise à remuer sur son petit banc, et la vieille dame avait dit « Natke, pour l'amour de Dieu, tenez vos pieds en repos !» Puis était entré un jeune homme, qu'ils prirent d'abord pour son fils, mais quand ils eurent compris que c'était le mari, ils furent pris d'un fou rire, qui avait mis la vieille dame hors de ses gonds, et elle s'était écriée « Au nom de la Sainte Trinité, qui est-ce que cesse de rire comme un petit cochon ?» Et leur rire était devenu des cocoricots quand le jeune mari leur avait fait signe de renverser le panier d'oignons, ce qu'ils firent incontinent. La dame s'était lamentée, avait imploré la Sainte Vierge et déclaré que les enfants étaient un fléau. Le jeune mari avait répondu « Un fléau, grand-mère, parce que tu es trop vieille pour en avoir !» Elle avait alors levé les yeux au ciel en geignant « Seigneur, pardonnez-lui, car il ne sait ce qu'il dit ni ce qu'il fait !» Pendant 15 jours, Nadj et Kej nous amusèrent le soir des histoires de la vieille dame et de son jeune mari. Mais l'inflammation de leurs beaux yeux devenait si grave que nous eûmes peur et n'osâmes plus les laisser continuer à appeler des oignons. Une nuit au parc de Bruxelles. Nous habitions, au fond d'un faubourg, une maison neuve où l'eau suintait des murs. Au rez-de-chaussée, le propriétaire tenait une boutique de comestibles. Nous avions versé d'avance le premier terme et nous prenions chez lui des vivres à crédit. Mais comme au bout d'un mois, nous n'avions pas de quoi payer le nouveau terme ni les denrées, la femme du propriétaire, une paysanne flamande enceinte de 6 mois, montait tous les jours réclamer son argent en nous insultant. Nous ne pouvions plus ni monter ni descendre sans être interpellés. Moi, surtout, j'avais le don d'exciter sa rage. Elle écumait littéralement quand elle me voyait. « Ah, vous, avec vos allures de demoiselle, vous feriez mieux de payer les gens que de vous onduler les cheveux. Ah, mon Dieu, voyez donc ces cheveux, on dirait la Sainte Vierge. Et cependant, ça ne paye personne. Un jour, je vous coifferai, moi. » Elle me terrifiait. Je faisais ce que je pouvais pour trouver de l'ouvrage, mais ignorant le français et ne sachant où m'adresser, je ne trouvais rien. Enfin, nous devions déménager. Ma mère avait loué 2 chambres à l'autre extrémité de la ville, et mon père, qui était devenu camionneur dans une messagerie, devait, en cachette de son patron, faire le déménagement entre 2 courses. Il vint donc un dimanche matin avec le camion. Je m'étais sauvée, certaine que la propriétaire ameuterait tout le voisinage, lorsqu'elle saurait que nous quittions sans la payer et sans dire où nous allions. En effet, quand le camion partit au grand trot avec nos frusques et ma mère et les enfants entassés dessus, cette femme enceinte s'accrocha à la voiture et galopa durant plusieurs minutes jusqu'à ce que, exténuée, elle dût la lâcher. Elle continua néanmoins à suivre, de façon à ne pas la perdre de vue. J'attendais l'arrivée du camion à l'allée verte. Ma mère me fit, en passant, signe de venir, mais je vis de loin accourir la femme, rouge, hagarde, haletante. J'eus le temps de me cacher derrière un arbre, car elle m'aurait écharpée, et quand elle fut passée, je me sauvai. Rejoindre ma famille, il ne fallait pas y songer pour l'instant. Je fis un long détour et aboutis au pont de Laeken. C'était fête dans ce faubourg. Il y avait une foule rigolante. Près du pont, au bord du canal, le camion était arrêté. Ma mère et les enfants à côté, mon père, ivre, couché à l'intérieur. Ma mère me mit au courant. La femme, les ayant rattrapés, avait prévenu les nouveaux propriétaires que nous ne payions personne, et ceux-ci avaient rendu l'argent du demi-mois de loyer donné en compte. Et nous voilà dans la rue. Mon père, déjà pris de boisson, s'était enivré complètement. Et comme il ne rentrait pas avec la voiture, il allait sans doute perdre sa place. La honte et l'angoisse m'affolèrent. Mon frère, Hein, qui avait 16 ans, se trouvait là, mortifié comme moi. Je lui dis « Viens, Hein, nous ne pouvons rester comme des vagabonds à côté de ce véhicule et de cet ivrogne. Allons-nous-en, nous trouverons bien un gîte. » Je dis à ma mère de venir le lendemain, à 9 heures, dans la grande allée du parc. Et nous partîmes. Hein portait un petit complet de coutil écru, très propre. Moi, j'étais assez bien mise. Hein, qui travaillait chez un forgeron, recevait 50 centimes pour son dimanche et voulait, comme il faisait toujours, acheter des boules de sureau. Il en avait 100 pour ses 50 centimes et en suçait toute la journée. Mais cette fois, pour ne pas rester sans manger, je lui conseillai d'acheter des petits pains. Ce que nous fîmes. Comme d'habitude, je n'avais pas un sou. Dans le peuple, les frères et sœurs se connaissent en somme peu, après les années d'enfance. Les garçons vont à l'atelier, les filles travaillent de leur côté, et l'on se voit et l'on se parle rarement. Je fus donc étonnée de trouver mon frère si gentil, de l'entendre rire si naïvement, et faire des réflexions si justes et si fines. Je fus vraiment très heureuse de nous sentir aussi bien ensemble. Nous allâmes au jardin botanique manger nos petits pains. Puis je m'en fus chez un brave peintre allemand à qui je voulais raconter notre mésaventure et demander de nous procurer un logement pour la nuit. Mais il était à la campagne jusqu'au lendemain. Je revins vers mon frère, la figure décomposée. Qu'allons-nous faire ? Retrouver la famille grouillant à côté de ce camion, comme des saltimbanques auprès de la roulotte ? Ah non ! Tout notre être se rebiffait à cette seule idée. « Il ne nous reste, dis-je, qu'à nous promener toute la nuit. Il fait chaud, cela ne sera rien. » Nous nous acheminions vers le parc. Nous y fîmes des tours et des tours, et comme la température était très douce, je proposai de nous laisser enfermer. À cette époque, le parc n'était pas éclairé. Il y avait concert au Walt Hall. La foule commençait à s'écouler. Un garde-ville était posté à chaque sortie. À voir partir le monde, je pris peur et craignis que les agents ne fissent une ronde pour s'assurer que personne n'était resté. Nous sortîmes donc avec les autres et nous nous mîmes à errer par les rues. Nous commencions à être éreintés et à avoir très faim. Puis la frayeur me vint d'être ramassée par la police. « Mon Dieu, Hein, si nous demandions asile au commissariat, cela vaudrait mieux que de nous faire arrêter. J'en mourrais de peur et de honte, car on est souillé pour la vie quand on a été appréhendé par des policiers. Je t'en supplie, allons plutôt nous mettre entre leurs mains. » Je tremblais tellement que mon frère se mit à pleurer. Nous descendîmes vers la grande place. Hein accosta un agent et lui demanda asile. L'agent fit un haut-le-corps, me regarda Hein, puis nous conduisit vers le commissaire. Mon frère parla. Le commissaire, un vieillard, écoutait en me dévisageant. Il entra dans une colère bleue. « C'est sans doute pour des dettes que vous êtes dans cette situation. Cela ne me regarde pas, et vous n'avez qu'à vous tirer d'affaire. » L'agent hasarda un timide « Ce sont presque des enfants, monsieur le commissaire. » Mais il se fâcha davantage et répondit que nous n'avions qu'à retourner dans la commune d'où nous venions. Je lui dis que nous nous étions adressés à la police de peur d'être ramassés. « Et de peur d'être ramassés, vous venez vous rendre. Elle est forte, celle-là. Eh bien, allez-vous-en. » Une fois dans la rue, nous nous mîmes à rire et à gambader, bien que claquant des dents. Ah, si c'est ainsi, quel bonheur! Ouf, quelle chance! Allons-nous promener, maintenant que nous sommes sûrs de n'être pas arrêtés. En avant! Ah, mon Dieu, quel méchant vieux! En avant! Et nous voilà, remontant vers la rue Royale. Après avoir encore erré quelque peu, nous nous décidons à passer, quand même, la nuit dans le parc, où nous pénétrons en grimpant par-dessus la grille. Les bancs étaient mouillés de rosée. Nous n'osions presque pas marcher de crainte d'être entendus du dehors. Nous n'osions aller dans les bas-fonds à cause des ossements de ceux de 1830. Mon frère grelottait sous son petit costume de coutil. De dormir, il n'était pas question. Nous étions trop terrifiés. Nous nous assîmes au pied d'un arbre. Quand le jour commença à poindre, un ouvrier nous vit de la rue Royale. Nous nous sauvâmes dans les hauteurs. Je m'accroupis sur un banc, je relevai ma jupe et fis s'étendre Hein, la tête dans mon giron, ma jupe rabattue sur lui. Nous étions figés de froid. Hein résistait moins bien que moi. Mais ainsi couvert, il s'endormit. Moi, je sommeillais sur le qui-vive. C'est ainsi qu'un homme nous trouva.
« Que faites-vous ici ?»«
Nous avons été enfermés. »«
Quoi ? Vous vous êtes fait enfermer pour faire votre goût ?»
Je comprenais déjà un peu le jargon bruxellois.
« Mais c'est mon frère !»«
Votre frère ?
Ouais, je connais ça.
Attendez, je vous aurai. » Et il s'en alla. Nous n'attendîmes pas son retour et sautâmes par-dessus la grille. Des paysannes qui passaient avec leurs charrettes de lait ou des paniers de légumes sur la tête pour aller au marché de la Grand-Place ricanèrent en parlant de « mon amant ». Je rougissais de honte. Même si Hein n'avait pas été mon frère, c'était un petit garçon. Au boulevard, nous nous assîmes. Nouveau colibé d'ouvriers qui se rendait au travail. Hein ne disait rien, aussi gêné que moi de cette situation équivoque. Quand le parc s'ouvrit, nous y retournâmes attendre ma mère. Hein n'en pouvait plus. Un agent en uniforme nous demanda ce que nous faisions encore là. J'allais lui répondre quand mon frère me chuchota
« Tais-toi, c'est l'homme qui nous a réveillés !»
Comme nous étions de nouveau affalés sur un banc, un pochard vint s'asseoir à côté de nous, en bougonnant. Il avait en main un paquet ficelé. C'était visiblement des tartines. Hein et moi nous échangeâmes un regard et nous nous comprîmes. Le paquet tomba. D'un coup d'œil, je fis lever Hein qui contourna le banc, ramassa le paquet et s'éloigna lentement. Je restai assise. L'homme s'aperçut bientôt de la disparition de ses vivres. En cherchant autour de lui, il bégayait «
Les cochons, ils me les ont volés !»
Alors, comme dégoûté de ce voisinage, je me levai et m'éloignai à mon tour. À l'extrémité du parc, je rejoignis mon frère. Nous défîmes fiévreusement la ficelle. Mais au lieu des tartines bien beurrées que nous espérions, nous ne trouvâmes que deux tranches de pain très rassis et sans beurre. C'était égal, et il nous sembla exquis. Ma mère arriva à l'heure convenue. Elle nous dit que ma mauvaise tête l'avait fait passer par des transes mortelles, que mon père s'était mis à errer par les rues avec le camion, qu'elle avait vu un appartement à louer et qu'on nous avait accepté. Elle nous conduisit dans une rue de faubourg, au second étage d'une maison, dont encore une fois une boutique de comestibles occupait le rez-de-chaussée. Un crédit nous était déjà ouvert. Nous étions voués à cela. Hein, tout courbaturé, ne pouvait presque pas monter les escaliers. En haut, il se laissa choir sur un tas de guenilles et s'endormit. Je bus du café et mangeai une tartine, et une nouvelle étape de misère commença.